Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, 6h06, mercredi 12 avril, bonne journée et bienvenue au 98.5. De très, très belles journées en vue. Ça demeure nuageux aujourd'hui, un peu comme hier, mais des températures autour de 15 degrés. Les vents sont légers. La nuit prochaine, 8 degrés. Et puis demain, jeudi, on prévoit 24 degrés. Juste rappeler qu'on était en plein verglas il y a une semaine de ça. Donc, 24 degrés. Même dans l'Outaouais, on parle de 27 degrés. L'humidex, un outil qu'on utilise seulement au mois de mai, habituellement, ben on parle de 30 degrés. Vendredi, c'est du soleil 20. Et le week-end s'annonce aussi, particulièrement samedi, avec du soleil, température au-dessus de 20 degrés, peut-être un petit peu plus nuageux pour dimanche. On commence par les pannes d'électricité. Le dernier bilan de Hydro-Québec indique qu'il y a actuellement 2388 clients qui n'ont pas d'électricité. De ce nombre, il y en a à peu près 1400, 1500 à Montréal. Ailleurs, c'est réparti, donc Mauricie, Montérégie, 9, 10, 11. Donc, on peut dire que, grosso modo, c'est presque terminé. Il y a cependant beaucoup de questions à poser. Et depuis hier, et on l'a soulevé hier matin, mais ça trotte, comme on dit, comment se fait-il que des RPA, des résidences pour personnes âgées, ou des CHSLD, n'ont pas été rebranchés plus rapidement? Je vous parlais de résidences, puis parfois pas des petites, là, où les bénéficiaires sont restés dans le noir pendant 2, 3, puis 4 jours. Et là, on va regarder Hydro-Québec d'un côté en disant comment ça se fait que ce n'est pas sur votre liste prioritaire. Des personnes vulnérables, des personnes qui ont besoin souvent plus que n'importe quelle autre personne d'un environnement sécuritaire. Comment ça se fait que c'est pas devenu au top des priorités? Nous, on expliquait hier matin, c'est le ministre Pierre Fitzgibbon, que les registres n'étaient pas tout à fait à jour. Puis que la RPA a une responsabilité comme Hydro-Québec. C'est... J'ai reçu beaucoup de courriels hier là-dessus, là. Si Hydro-Québec est capable d'envoyer un compte quelque part, il doit savoir exactement où sont les RPA sur son territoire, me semble-t-il. Fait que ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, tous ces propriétaires de RPA, puis là, je pense aux plus gros. C'est incompréhensible qu'il n'y ait pas de système de génératrice dans ces RPA. Puis je vous donne des exemples qui sont entre autres apportés ce matin. Dans la presse, c'est une lettre ouverte d'un ancien journaliste, François Trépanier, qui parle de ce qui s'est passé au manoir Outremont. Puis Outremont, ça a été durement touché pendant les pannes d'électricité. Alors, il parle du manoir Outremont, mais il dit quelque chose dont personne ne parle. Les résidents n'ont reçu de lettres ou de messages de la part de la direction de ce manoir ou des dirigeants de la société Cogir, à qui elle appartient, exprimant des regrets ou des excuses pour les problèmes que cela a causés. Pas un mot sur des ascenseurs paralysés. Moi, j'habite un immeuble, puis les ascenseurs fonctionnaient parce qu'il y avait une génératrice. Comment ça se fait que dans une résidence pour personnes âgées, donc des gens qui ont, dans certains cas, des problèmes de mobilité ou plus de difficultés tout court, il n'y a pas de système d'appoint en cas de panne? L'impression que ça nous laisse, c'est qu'on a des gloutons qui profitent de la vieillesse pour se remplir les poches. Pas tout le monde. Et le projecteur est mis quand des situations comme ça arrivent. Et M. Trépanier raconte qu'en plus, il s'est retrouvé avec des agents de sécurité embauchés qui se promenaient la nuit avec une lampe de poche puis qui mettaient ça dans le visage des gens. Alors, on peut s'interroger sur comment se fait-il que le Québec a laissé tomber ces personnes âgées pendant les épisodes de verglas et de panne d'électricité. Puis on peut regarder les propriétaires de RPA, puis on peut regarder Hydro-Québec aussi. Quelles leçons on va tirer de ça? C'est un premier exemple qu'on peut donner ce matin. L'autre chose, et j'ai vu ça beaucoup en fin de semaine, mais il y a une espèce de sentiment bizarre qui est parfois présenté comme une farce, mais pas tout le temps, que dans les priorités, on aurait laissé tomber le West Island, ou si vous préférez l'ouest de l'île, parce que ce ne sont pas des comtés de la CAQ, puis que ce sont des anglophones, puis que bref, on aurait décidé à Hydro-Québec, franchement. Je peux comprendre bien des frustrations. Je peux comprendre des cas complexes, comme on nous a expliqué hier matin. Mais je pense pas qu'il y ait une sélection qui a été faite en fonction de l'appartenance du vote ou des revenus. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, je vous donne un exemple, tu sais, de rumeur qui circule. Ma fille a un voisin à Boucherville qui est pompier qui lui a dit qu'on rebranchait les riches d'abord, la classe moyenne ensuite, puis les pauvres à la fin. OK? Je sais que ça fait plaisir à entendre, là, puis ça permet d'évacuer des frustrations. Mais ce discours-là, là, puis c'est chacun sa amie, je le trouve comique, là, puis il a fait des farces là-dessus. Mais quand je vois des gens supposément sérieux qui essaient de reprendre ça comme étant un fait, c'est assez fatigant. Alors, dans Deux Gazettes, il y a quelques éléments là-dessus. Et il y a l'ancien ministre de la Sécurité publique qui témoigne aussi dans le Journal de Montréal, Pierre Bélanger, qui a pas eu d'électricité pendant longtemps, qui était pris avec une génératrice. Je pense que c'est revenu hier soir. Puis il y avait des dommages donc majeurs, poteaux également, ce qu'on appelle les fameux poteaux d'alimentation à la maison. Mais il a raison de souligner qu'au-delà de la rapidité avec laquelle Hydro intervient, il y a aussi un enjeu de communication. Et plus la panne dure, plus les gens qui sont privés de courant devraient avoir un accès à autre chose qu'un robot qui répond ou une application web, d'avoir un contact avec la population. Et je pense que ce qui soulève comme point, c'est quand même pas mal intéressant. Une journée dans la vie de Justin Trudeau. Hier, M. Trudeau a comme balayé du revers de la main ces informations, voulant qu'il y ait eu des cyberattaques de hackers, de pirates russes menés contre son compte, celui du premier ministre, et également qui aurait visé des compagnies de gaz. Tout ça pour perturber la production. Il a dit qu'il n'y a pas eu de dommages, il n'y a pas eu de dégâts comme tel. Puis que finalement, c'est pas vrai que des pirates russes vont intimider le Canada, puis le Canada va maintenir son soutien à l'Ukraine. Ça, c'est un élément de sa journée. L'autre élément, c'est le départ en bloc de la Fondation Trudeau, des dirigeants, des membres du conseil d'administration et de ceux qu'on appelle les fameux mentors. Tout ça connecté à ce don fait par un investisseur chinois en 2016 et 2017. On peut lire ce matin dans la presse, là, c'est sorti hier, pas mal toute la journée, que la politisation de ce don émanant de la Chine, c'est un ramassis de mensonges, et que au total, la presse a pu s'entretenir avec 5 personnes qui ont quitté leur fonction, qui ont réclamé l'anonymat, en disant que le climat était difficile depuis les dernières semaines, des campagnes d'intimidation et même de menaces à la fondation, et que c'est un don. Que ce don-là, c'est une bombe puante. Ça soulève encore une fois, là, puis je comprends que les gens se sont fait harceler, puis dans la vie, t'as le choix, tu peux décider de te pousser. Mais on sait que c'est un don qui venait d'un homme d'affaires chinois bien connu, proche du Parti communiste, Zhang Bing, et qu'il aurait été remboursé par les autorités chinoises. Tout ça dans le cadre de cette enquête publique qui est réclamée, mais que M. Trudeau refuse de tenir, sur de l'ingérence au Canada de la Chine. Donc, dans les élections, dans le processus démocratique, dans la fondation, s'assurer que M. Trudeau soit élu, parce qu'on veut pas des conservateurs. Et M. Trudeau, à date, a toujours minimisé cette affaire-là. Sauf peut-être sur le plan économique. Donc, vous pouvez lire ça ce matin dans la presse. Autre chose. Air Canada, là, deux éléments encore ce matin. Premier élément, on sait que Michael Rousseau, qui a promis d'apprendre le français, passera pas le test avec brio, je pense. Il y aura l'Assemblée générale, il doit se présenter. Et je lisais ce matin que ça semble assez difficile. Les échos qu'on a de son cours de français intensif, ça donne pas tellement de résultats. Et on disait également que sa rémunération serait aussi établie en fonction d'un certain nombre d'objectifs, on en a parlé hier avec Pierre-Yves, mais de sa capacité à mieux parler français. La presse nous dit ce matin que il y a quand même que 13 mots dans un document de 100 pages qui est consacré à l'engagement pris par M. Rousseau il y a environ un an et demi. Tout ce que ça dit, c'est qu'il continue de respecter son engagement à apprendre le français. Ça veut pas dire qu'il le parle, mais il essaie de le parler, ou en tout cas, il l'apprend. Et quand on essaie de voir jusqu'à quel point on mesure son apprentissage du français dans sa rémunération, disons qu'il n'y a pas grand détail là-dessus. Fait qu'attendez-vous pas à un discours dans un français même potable de la part de Michael Rousseau, qui, on l'a vu hier avec les hauts dirigeants d'Air Canada, c'est une bonne stratégie, sa rémunération qui va dépasser les 12-13 millions. Disons qu'il s'est rempli les poches pas pire. Puis au même moment, dans Le Devoir, on apprend, puis on peut le constater, que sur les vols d'Air Canada, le contenu de télé francophone fait au Québec est à peu près inexistant. Il y a quelques films, quand vous voyagez, là, puis que vous avez l'offre, il y a quelques films de disponibles, mais pour ce qui est des émissions de télé, de documentaires, il y a à peu près rien là de bien intéressant. Alors que sur Air Transat, vous avez quand même des séries québécoises qui sont offertes. Et là, je parle pas des employés, parce que les employés, quand je prends des vols d'Air Canada, sont toujours d'une gentillesse, puis c'est toujours très agréable. Moi, je parle des patrons. Il y a comme un mépris du français qui est même pas caché. Je reçois encore des courriels. J'ai beau indiquer que je veux ça en français, je reçois ça en anglais pareil. Puis là, une offre télévisuelle assez médiocre en français. Pis c'est un transporteur national, Air Canada. Alors, puis lire ça dans Le Devoir ce matin. Rapidement, sur d'autres nouvelles, il y a un article intéressant dans Le Devoir, Marie-Ève Cousineau, concernant ce projet de recevoir des patients à l'hôpital le jour et de les retourner chez eux pour la nuit avec une forme de surveillance à distance. C'est probablement une des voies d'avenir pour un peu désengorger le réseau en disant oui, vous avez besoin d'être vu, soigné, traité à l'hôpital. Puis en même temps, si on est capable d'avoir cette distance-là, un monitoring, comme on dit, ben ça peut être utile. Et même, on est en train de regarder, ça c'est dans Le Soleil ce matin, ce qu'on appelle du triage à distance, où on vous met en team avec quelqu'un à l'urgence, puis on est capable peut-être d'avoir une première évaluation, puis tout ça pour mieux vous guider, vous orienter dans le réseau. Puisqu'on parle de santé, le New York Times revient ce matin sur un dossier qui est assez controversé, qui est ce médicament injectable qui est prescrit pour les gens qui souffrent de diabète de type 2 principalement, qui s'appelle Ozempic. Et il y a d'autres produits comparables. Et un nouveau là qui est sur le marché qui s'appelle Mounjaro. C'est un autre fabricant. Et là, il faut faire bien attention, parce que c'est un produit, je le disais, là, pour les gens qui souffrent de diabète de type 2, qui est un espèce de coupe-faim et qui fait donc perdre du poids, puis en même temps, qui permet d'avoir une meilleure glycémie, donc un meilleur contrôle sur la quantité de sucre dans le sang. Et Mounjaro, d'après évidemment des études, je précise, qui ont été parrainées par son fabricant, serait probablement plus efficace. Et le problème qu'on constate depuis quelque temps, ce sont des gens qui sont pas diabétiques et qui finissent par se faire prescrire Ozempic et qui vont vouloir, puis c'est commencé aux États-Unis, là, se faire prescrire Mounjaro pour de la perte de poids. Selon certaines études qui ont été faites, dans certains cas, puis là je suis très prudent, puis je me méfie toujours de ces demi-études, mais en tout cas, on parle de perte de poids facile de 25-30 livres dans certains cas, et d'un meilleur contrôle de la glycémie. Et il y a des effets secondaires quand même qu'on a détectés sur ce médicament. Par exemple, des cas de diarrhée ou encore des maux d'estomac. Et aussi, dans certains cas, des nausées. Donc, c'est un médicament qui donne des résultats, qui a des effets secondaires comme beaucoup de médicaments, mais qui là est devenu comme une espèce de médicament à la mode pour perdre du poids. Parce que c'est vrai qu'il y a un effet de coupe-fin, puis on pense que l'autre sera encore plus efficace. Mais je vous le dis, soyons extrêmement prudents. Puis ce qui est bien dur à comprendre, là, j'allais dire oui et non, c'est que c'est un médicament sur ordonnance. Comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui arrivent à l'obtenir puis qui sont pas des gens qui ont le diabète? Donc, ça veut dire qu'il y a des médecins qui acceptent de le prescrire. Je peux comprendre qu'il y a un marché là, parallèle, mais on le voit quand même avec... En fait, on est au total avec trois médicaments qui se ressemblent et qui ont à peu près le même type d'effet. Et puis, un mot pour vous dire, on y reviendra ce matin, qu'il y a 3 millions de chiens et de chats au Québec et que le gouvernement va embaucher une vingtaine d'inspecteurs, 8 millions, pour répondre aux plaintes de maltraitance. Puis il y a eu comme un boom après le verglas. T'sais, on est tous allés chercher un animal de compagnie. Malheureusement, ça s'est mal terminé dans certains cas. Puis on le sait que le MAPAQ est pas toujours hyper vite pour gérer les cas. Rappelons-nous des vaches, t'sais, quand tout le monde se passe à la rondelle. Avec la SPCA puis les vétérinaires, ben on veut faire prendre conscience aux gens de, prendre du temps et de bien accompagner leur petit animal. Et puis, Yves Duhem, des conservateurs, le chef du Parti conservateur, sera avec nous. Il lance une pétition, dit-il, pour protéger les enfants des drag queens. Alors, qui raconte des histoires dans les bibliothèques publiques et dans les écoles. Puis, alors, en gros, il veut pas que ça soit financé par de l'argent public. Essayez de comprendre ça. Puis, deuxièmement, il veut que les parents aient le choix. Je veux juste rappeler que d'abord, les parents ont le choix. Il y a personne qui force des adultes à amener leurs enfants dans une bibliothèque où on se retrouve avec une drag queen qui raconte des histoires aux enfants. Et c'est vu comme une forme d'intégration. Il y a eu une motion à l'Assemblée nationale. Ça ne force personne, ça n'oblige en rien. C'est un choix. Et je comprends là, qu'il va attirer l'attention, puis qu'il y a de la grogne sur les réseaux sociaux, puis qu'il y a des parents qui sont pas à l'aise avec ça. On a tous ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est de voir des gens violents remis en liberté alors qu'ils sont considérés à risque de récidive élevé. C'est de voir des gens qui ont des antécédents criminels être embauchés par des centres de services scolaires, rappelle l'enquête déclenchée par le ministre Drainville, donc qui ont accès à des mineurs. Ça m'inquiète bien plus de voir des fraudeurs opérer des garderies. Ça, comme parent, me semble que c'est plus achalant qu'une drag queen qui débarque une fois de temps en temps pour ouvrir un peu les horizons. Et pour reprendre l'expression de Danny Turcotte, c'est pas parce que t'écoutes un conte raconté par un drag queen que ton enfant va devenir drag queen, puis que ton enfant va être LGBTQ là. Tu sais, y en a qui pensent que ça s'attrape, puis qu'on est en train peut-être de perturber des enfants. Alors que ça se fait, puis ça se fait avec goût, respect, puis c'est tout. Parce que c'est aussi ça la vie finalement.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Savez-vous qu'il y a au Québec, paraît-il, pas loin de 3 millions de chats et de chiens, ces animaux de compagnie, que le nombre a augmenté durant la période de verglas, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Et malheureusement, le Québec a souvent porté le chapeau d'un endroit assez paradisiaque pour ceux qui maltraitent les animaux, les fameuses usines à chiots. Depuis ce temps, il y a eu des correctifs, des lois plus sévères, déploiement d'inspecteurs. Et hier, Québec a annoncé un 8 millions additionnels pour ajouter une vingtaine d'inspecteurs pour répondre aux plaintes de maltraitance. J'en parle avec le ministre responsable de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation, André Lamontagne. Monsieur Lamontagne, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Quand vous dites 20 inspecteurs de plus, là, concrètement, ça veut dire quoi? Ils vont être déployés où? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire exactement?
Bien, en réalité, toute la question la surveillance du bien-être animal sur le territoire, là, c'est l'office du ministère, mais aussi de différents partenaires, des mandataires avec qui on fait affaire. Aujourd'hui, là, sur le terrain directement, on a à peu près 65 ressources, tout le monde ensemble, là, d'affectés pour aller soit répondre à des plaintes ou faire des inspections qui sont aléatoires. Puis là, on vient de rajouter 20 ressources. Les ressources vont être déployées en fonction vraiment des besoins là, qui vont être déterminés, s'il y a des endroits au Québec, s'il y a des types d'interventions qu'on doit faire maintenant qui se faisaient pas auparavant. Là, c'est vraiment au cours des semaines et des mois qui s'en viennent là, que tout le peaufinage de cette annonce-là va se faire. Là.
C'est parce que j'essaie juste de comprendre, là, puis que les auditeurs puissent saisir vraiment ce que vous voulez dire. Là. Quelqu'un qui est témoin, qui voit qu'un chien, par exemple, est maltraité et battu, cette personne-là appelle qui?
Elle appelle 1-844-ANIMAUX. Ça, c'est la ligne qui est partout diffusée au Québec. Puis à peu près, honnêtement, là, entre 4 et 5 000 appels par année là, qui sont dirigés vers la centrale, là, qui après ça, fait le traitement des appels et redirige ça là, vers les services là, de bien-être animal.
Là. OK. Et quand vous dites les services, là, c'est quoi la différence entre ce numéro-là, la SPCA, puis d'autres organismes qui ont des mandats donnés par des municipalités?
Ah, ben, tu sais, la question des mandataires, si les gens appellent directement les mandataires, c'est tout le même traitement. On a toute une responsabilité partagée, si on veut, là, de l'application de la loi, puis du suivi de la loi, là, puis du suivi de la question de l'état du gardiennage des animaux au Québec. Là.
La raison pour laquelle je vous pose toutes ces questions-là, c'est que j'ai une autre version. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me racontent qu'ils ont fait des signalements. Puis qu'on se passe la rondelle, comme on a vu dans l'histoire des fameuses vaches, là, où le ministère était interpellé, après ça, on a eu la sécurité publique. Puis là, tout le monde se passait la rondelle, puis il se passait pas grand-chose en bout de ligne. On me raconte des signalements qui sont faits, puis les gens continuent, il n'y a pas de visite, il n'y a rien qui se passe, puis ces animaux-là sont maltraités. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants, puis disons, un chemin pas trop clair?
Ben, ce qui importe de faire, monsieur Arcan, puis ce qu'on annonce aussi, c'est la tour de consultation de ma collègue, là, Audrey Bogmans, qui est mon adjointe gouvernementale en matière de bien-être animal, là, c'est qu'on va prendre 7 journées pour lesquelles on va rencontrer une trentaine d'organismes qui sont impliqués dans la question du bien-être animal au Québec. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment un état des lieux, bien recueillir eux comment ils vivent ça sur le terrain, quelles sont les réalités, quelles devraient être nos priorités aujourd'hui en 2023. Puis l'objectif de tout ça, bien, c'est mieux coordonner puis mieux mobiliser tout l'écosystème là, qui est responsable là, de l'application de la loi. Là.
Mais ça veut dire que vous reconnaissez qu'il y a un problème?
Pardon?
J'ai dit, vous reconnaissez qu'il y a un problème?
Ben écoutez, il y a 8,5 millions de Québécois sur le territoire. C'est un territoire qui est grand. De penser que demain matin, il n'y aurait pas de faute en matière de bien-être animal, je pense que c'est un petit peu utopique. Mais par contre, on a plusieurs. Chaque fois qu'il y a un exemple d'une situation, ben moi, ça m'interpelle comme citoyen, ça m'interpelle comme ministre. Fait que c'est certain que l'opération qu'on lance là, si on pensait que tout est parfait, ben on le ferait pas. Fait que là, l'objectif, c'est d'être meilleur.
Non, mais Monsieur Lamontagne, je comprends, là, mais c'est parce que, je l'ai dit au début, le Québec a traîné une réputation de paradis, notamment pour des usines à chiots. Je l'ai dit aussi qu'on a modifié les lois, mais ce qu'on remarque, malheureusement, c'est qu'il y a un manque de synchronisme depuis un certain temps entre les, appelons ça toujours, là, les différents intervenants sur le terrain, ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent maltraiter des animaux puis qui échappent au système, puis que souvent, ça tombe entre deux chaises. C'est ça mon point.
Ben, j'entends très bien votre point, puis ce que je vous explique, c'est l'objectif de ce qu'on lance, la démarche qu'on lance, puis l'ajout de ressources, c'est de faire en sorte que s'il y a des lacunes aujourd'hui, puis ce qu'on peut trouver comme lacunes, ben, c'est de répondre à ces enjeux-là, puis faire en sorte qu'on soit encore meilleur pour l'application de la loi, puis répondre aux attentes des Québécois, des quoi, en matière de bien-être animal, là.
OK. Pensez-vous qu'il y en a des lacunes? Et si oui, lesquelles?
Ben, je dirais chaque fois que moi j'ai un reportage qui me démontre des situations de maltraitance animale, ben ça m'interpelle. Chaque fois qu'on porte à mon attention qu'il peut y avoir eu un manque de communication entre deux organisations, ça m'interpelle. Fait que l'objectif de ce qu'on fait, c'est de penser que ça pourrait être parfait sur le territoire 365 jours par année, j'ai pas cette pensée-là, mais de penser qu'on peut être meilleur tout notre écosystème à partir du ministère, mais après ça, tout l'écosystème qui est lié là, pour la question du bien-être animal au Québec, mais j'ai la certitude qu'on peut être meilleur, puis que suite à ce qu'on a annoncé hier, la démarche qu'on va faire, ben on va être meilleur.
Parfait. Merci, M. Lamontagne. Bonne journée.
Merci.
Au revoir. Merci. André Lamontagne est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On a beaucoup parlé de la haine sur les réseaux sociaux. Et cette haine, les menaces, les comportements agressifs, vulgaires, peuvent se multiplier. Puis à un moment donné, ça peut devenir comme une cadence infernale. En décembre 2019, Sébastien Rioux, qui est de Trois Pistoles, porte plainte à la police pour des menaces qu'il a reçues de la part d'un troll. Puis vous le savez comment ça peut se passer. Il y a plusieurs cas qui ont été documenté. Et finalement, la situation a comme dégénéré. Et il n'y a plus, d'ailleurs, la police a procédé à l'arrestation d'un individu. Il y a eu accusation. Mais ce qui est important ce matin, c'est de voir par quoi est passé M. Rioux. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se reconnaître un peu dans cette expérience. M. Rioux, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
On va prendre ça, j'allais dire, du début, puis le plus simplement. Vous êtes quelqu'un qui est actif sur les réseaux sociaux, vous prenez des positions, vous commentez. Bon, c'est un peu normal qu'il y ait des réactions. À quel moment vous avez senti que ça dégénérait?
Ça a commencé à dégénérer lorsque c'est sorti du simple cadre de Twitter. J'ai commencé à recevoir plusieurs courriels, plusieurs messages, autant sur Instagram, sur YouTube. C'était constant, jour après jour. Bon, il y avait certaines pauses des fois. Ça pouvait durer une semaine, deux semaines. Et tout d'un coup, ça recommençait encore plus intensément. Des faux comptes à mon nom aussi qui ont été créés, prenaient des images de moi, recréaient environ une vingtaine de faux comptes au total, là. Ils essayaient de me faire passer pour un pédophile pendant une certaine période, comme quoi j'aurais violé ma cousine de 14 ans. La liste est longue, là, et c'est très violent comme propos, là, mais à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez parce que c'était très intense, ça l'affectait mon quotidien, j'avais peur de m'asseoir devant l'ordinateur pour aller prendre mes messages parce que je m'attendais à avoir reçu pendant la nuit, parce que ça se passait souvent la nuit, je me réveillais le matin, j'avais des dizaines de messages. Donc j'ai porté plainte. J'ai été chanceux, la police a cru mon histoire. Je suis arrivé quand même avec un dossier très épais. J'avais plusieurs captures d'écran. En fait, j'avais toutes les captures d'écran de tout ce que j'avais reçu depuis plusieurs mois. Et voilà, ils ont décidé d'entamer une enquête. Mon téléphone était sous écoute. Tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis étaient monitorés par l'escouade du cybercrime. Donc j'avais c'est là que j'ai commencé à sentir que j'avais du support. Jusqu'à son arrestation en août 2021. Et c'est là que tous les messages se sont arrêtés subitement. Je n'ai plus jamais reçu de message à partir de là. Et c'est là que le processus judiciaire a été entamé.
Je lisais la chronique d'Isabelle Haché hier. Ouais. Et ce message qui revenait, là, qui est une réplique dans un film avec Liam Neeson, ouais. « I will find you, I will kill you, je vais te trouver et je vais te tuer ». Ouais, est-ce que vous comprenez pourquoi toute cette haine déchaînée vers vous, pourquoi il vous a ciblé?
J'aurais jamais la vraie réponse. Je pense que juste que je fitais dans son cadre de personne à ne pas aimer et comme je me laissais pas faire, ça le stimulait. Il y a l'expression don't feed the troll, là, faut pas nourrir les trolls. Moi, à un certain moment donné, j'ai complètement arrêté de répondre parce que pendant un certain moment donné, ben oui, je répondais. Il m'envoyait des messages en privé. J'ai discuté avec cette personne-là. Je lui ai demandé à maintes reprises de me laisser tranquille, de ne plus m'envoyer des messages et je le bloquais. Il revenait le lendemain avec trois nouveaux comptes, des nouveaux messages. Donc, à chaque fois que j'essayais de me défendre, ça l'empirait. Donc, à un certain moment donné, je ne savais plus quoi faire et c'est là que j'ai porté plainte parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ça arrête.
OK. Il a été arrêté par la police. C'est un gars, je pense, de Gatineau, c'est ça?
Oui, exactement.
Puis c'est un gars de quel âge environ?
38 ans.
Puis il a l'air de quoi?
C'est un homme normal, type barbu, cheveux mi-longs, qui a l'air un peu introverti. Il a baissé les yeux lorsqu'il m'a croisé parce que j'ai eu la chance ou la malchance de le croiser à deux reprises en cours. Il a pas daigné de me regarder dans les yeux, là. Donc, je voyais tout d'un coup que la personne qui se sentait très forte et courageuse derrière son ordinateur ne l'était pas dans la vie de tous les jours. Donc, ça m'a donné un petit boost, je vais vous dire, parce que tout d'un coup, je voyais que j'avais fait les bonnes choses, j'avais fait la bonne démarche de porter plainte. Et ça démontre aussi que à quel point l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. On peut se croire en sécurité derrière un faux compte, là, mais éventuellement, on peut toujours se faire retracer. La police a là les outils nécessaires et ça a fonctionné.
Est-ce que vous savez si, à part vous, il ciblait d'autres personnes?
Je n'ai pas l'information officielle, mais il y a des gens qui m'ont écrit me disant que ils avaient tous les messages que eux recevaient avaient aussi arrêté. Donc on 1+1 fait 2 à un moment donné là, les mêmes personnages, les mêmes comptes. Donc mais je suis le seul à avoir porté plainte.
Ça, c'est l'autre question. Des gens qui vous écoutent ce matin, qui vivent peut-être pas avec la même intensité que ce que vous avez vécu, là, mais qui ont des problèmes avec l'intro, puis des gens qui endurent ça depuis des mois, est-ce que vous leur dites « allez à la police, laissez pas passer, puis portez plainte »
Oui, totalement. C'est un des différents moyens de combattre ça. J'ai pas la solution à toute la haine en ligne.
Non.
Mais je pense que de dénoncer comme ça, ça l'est, d'aller porter plainte. Prenez des captures d'écran lorsque vous recevez des messages comme ça. Ça laisse des traces, ces messages-là. Donc, prenez le temps de prendre. Et surtout, essayez de ne pas répondre. Souvent, ça peut être très confrontant. On peut vouloir répondre, mais ne pas répondre est une bonne solution aussi. Lui, il n'a jamais arrêté. Même si je ne répondais pas, il continuait de m'envoyer des messages. Il m'envoyait des messages. Mais moi, je prenais des captures d'écran et j'envoyais ça à la police. Donc, de plus en plus, si les gens portent plainte pour ce genre de comportement, je crois qu'il va y avoir une certaine reconnaissance et que les gens vont... Les gens qui ont cette haine en eux et qui veulent l'exprimer, ben ils vont peut-être se garder une petite gêne parce que ça n'a juste pas d'allure. La quantité de messages haineux que j'ai reçus, je souhaite ça à personne et dénoncer, Colin, ça vaut la peine.
M. Rioux, merci beaucoup et bravo de l'avoir fait.
Merci à vous. C'est très apprécié de me laisser raconter mon histoire.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Sébastien Rioux est documentariste, musicien, il habite Trois-Pistoles. Et ce qui est sûr, ce qui est très, 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 je dirais, garanti, c'est que si vous répondez à ce genre d'individu, vous nourrissez la bête, puis la bête se calmera jamais. Si vous répondez pas, ça va peut-être continuer comme dans le cas de M. Rioux. Mais vous parlez à n'importe quel expert, n'importe quel enquêteur dans des dossiers comme ça, ne jamais répondre à des malades pour les rendre plus grands que nature, puis ils se sentent hyper stimulés, ils ont votre écoute, puis là, ils savent qu'ils vous ont touché. Quand vous répondez pas, ça peut continuer, mais quand vous répondez, c'est sûr que ça va continuer à ce moment-là.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien. Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, lance une pétition pour demander au gouvernement de cesser de financer des activités avec des drag queens dans les bibliothèques publiques, par exemple, ou dans certaines écoles, et veut aussi que le consentement des parents pour de tels événements soit obligatoire. Il est avec nous ce matin. Monsieur Duhaime, bonjour.
Bonjour.
D'abord, juste la raison pour laquelle vous arrivez avec cette pétition, est-ce que vous avez eu des cas où, par exemple, il y a des événements impliquant des drag queens qui ont été présentés dans des endroits sans le consentement des parents?
La raison pourquoi j'arrive avec ça, là, c'était parce que la semaine dernière, il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui stipule notamment que le fait d'exposer les enfants aux drag queens va faire du Québec un exemple d'égalité et d'équité. J'ai fait une conférence de presse le lendemain à l'Assemblée nationale, à la tribune de la presse, sur un tout autre sujet, là, sur le projet de loi 19. Puis les médias m'ont posé des questions sur la motion qui avait été adoptée à l'unanimité, là, la motion de Québec solidaire, sur la question des drag queens. J'ai répondu, ça a défrayé les manchettes. On a été inondés d'appels, de messages, de tout ce que vous voulez.
OK, mais je veux juste comprendre, là. Est-ce qu'il y a des cas où il y a eu ce genre d'événement sans que les parents soient d'accord?
Ben écoutez, là, moi j'ai répondu aux questions des médias. Là. C'est pas moi qui ai amené ça des parents.
Attendez, vous arrivez avec une pétition, vous dites qu'il faut que le consentement des parents soit obligatoire. Oui. Je vous demande, dans tout le déluge de messages que vous avez eus, est-ce qu'on vous a donné des cas où de tels événements avaient lieu sans que les parents soient d'accord?
Il y a des parents qui disent qu'ils l'ont appris a posteriori. Mais j'ai pas, tu sais, je peux vous envoyer des messages si vous voulez, là, on en a des tonnes, là, mais j'ai pas fait de vérification, c'était pas ça le but de notre affaire. Nous autres, c'était juste de dire, on veut s'assurer que l'argent public ne serve pas à ça, que l'État reste neutre par rapport à ces activités-là et qu'ultimement, il y a l'autorité parentale qui existe au Québec et c'est à eux de décider si oui ou non ils veulent exposer leurs enfants. Mais ça, ces activités-là ne devraient pas se dérouler dans des garderies, dans des écoles ou dans des bibliothèques publiques. C'était ça l'objet de la pétition qui est présentée aujourd'hui.
Ça, je comprends. Mais il y a deux volets. Moi, je suis d'accord avec vous pour le consentement, là, mais j'ai jamais vu un cas à date là, où il n'y avait pas le consentement des parents. Quand ça se passe dans une bibliothèque, ben, les parents amènent leurs enfants, puis c'est un choix qu'ils font. Puis t'es pas obligé d'y aller. Donc, la notion de consentement, elle me semble présente.
Ben, si, dans une bibliothèque, si les parents l'ont demandé, mais encore là, c'est qui finance ça? Comment ça a été fait?
OK, mais le financement, c'est une autre question, mais le consentement...
Non, mais je vais vous donner des exemples. Est-ce que les gens qui vont là, vous savez comme moi qu'il y a des conjoints qui sont divorcés, ça pose toujours des problèmes. Il y a des gens qui amènent les amis de leurs enfants. Il y a des gens... Je veux dire, il y a toutes sortes d'affaires. C'est juste pour mettre une soupape de sécurité pour s'assurer que le parent, ultimement, c'est lui qui décide et que c'est pas aux fonctionnaires, aux institutions publiques à décider, là.
Non, je comprends, là, mais je suis un peu étonné de votre propos pour tout dire, parce que vous qui prônez la liberté, moi j'ai la liberté comme parent d'y aller, de pas y aller, d'amener les enfants, je laisse ça à la discrétion du parent. Point à la ligne, c'est pas à l'État de...
D'accord, ben c'est ça, c'est pas à l'État de financer ça non plus, là.
Bon, ça, c'est l'autre question. Il y a un paquet d'affaires que l'État finance avec lesquelles je suis pas nécessairement d'accord, puis tous les conférenciers, puis tous ceux qui sont invités dans les écoles. Comment on va faire la liste? Les critères vont être quoi?
Bien, monsieur Arcan, on a sorti justement les curés de nos écoles parce qu'on a dit que les valeurs morales puis religieuses, ça avait pas sa place dans l'école, que l'école, c'est un lieu d'apprentissage. On va pas rentrer des drag queens qui vont venir commencer à parler de théorie du genre puis commencer à parler de diversité sexuelle à des enfants. Il y a quelque chose à payer par nos taxes. Il y a d'autres problématiques en éducation. Je pense que les ressources peuvent être à bien ailleurs. Vous savez comme moi qu'il y a bien des pénuries de toutes sortes de choses dans notre système. La dernière chose qu'on a besoin, c'est un débat là-dessus. S'il y a des parents qui individuellement veulent payer pour amener leurs enfants à voir des spectacles de drag queen, puis qu'il y a mieux que ça soit une drag queen plutôt que grand-maman qui lise des contes à leurs enfants, c'est leur choix. Mais on fera pas ça dans nos institutions publiques. C'est juste ça l'objet de notre pétition aujourd'hui.
OK. D'abord, je pense pas que ça coûte 25 millions par année. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il me semble que c'est une façon, quand les parents sont d'accord, pour ouvrir un peu, puis de voir un peu ce que c'est que la diversité sur le ton d'un enfant. Je pense pas qu'ils font le même genre de prestations dans une bibliothèque publique que dans un bar le vendredi soir, là.
Mais on parle pas de gens là qui sont formés puis qui travaillent pour un organisme de sensibilisation à une cause puis qui arrivent là puis qui expliquent quelque chose, là. On parle de gens qui sont déguisés. D'abord, une drag queen, il faut faire la différence, là. C'est pas un transgenre, là. Hier soir, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Michel Blanc pendant une heure sur les réseaux sociaux, là. C'est important que les gens comprennent bien que c'est du monde. Ça origine des États-Unis. Du même endroit, d'ailleurs, nous a-t-elle expliqué que les blackface, là, c'était des gens qui se déguisaient pour faire des spectacles burlesques en fin de soirée. Et c'est un style.
Hey,
ces gens-là, ça n'a pas rapport avec le genre.
Non,
parce que c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est pas une question
non, mais moi,
les
courants qui viennent des États-Unis, qui voient des pédophiles cachés dans des pizzerias, puis qui sont tous avec Hillary
Clinton.
C'est
pas de ça dont on parle.
Ben non, mais c'est parce qu'il y a des courants, là. Vous avez l'air du gars, honnêtement, en mal de sujet, puis vous êtes dit ça pogne parce que là, il y a une controverse. M'accrocher à ça, puis je vais partir une pétition.
Monsieur Arcan, c'est même pas moi qui a soulevé le débat, c'est les médias qui m'ont questionné là-dessus. Vous devriez parler à vos collègues.
C'est vous qui lancez la pétition quand même.
Ben parce que les parents nous ont interpellés, puis parce qu'on a vu qu'il y avait unanimité, puis de toute évidence, il n'y a pas unanimité dans la population du Québec. Ça, c'est un autre problème. Les 125 députés ont voté pour la motion de Québec solidaire. Puis il faut pas être naïf là. Il y a des gens qui, c'est clair, là, les woke ça existe. Puis c'est clair que prêcher les théories du genre, puis la diversité sexuelle, ça fait partie de leur prêche. Et est-ce qu'on va laisser entrer ça dans les bibliothèques, dans les écoles, puis les garderies? Parce qu'on n'ose pas se lever puis dire c'est assez, là.
OK, mais là, ce que vous me dites, dans le fond, c'est un complot mené par Québec solidaire et son armée de woke.
Je dis pas que c'est un complot. Je dis que c'est eux qui ont présenté la motion. C'est eux qui l'ont déposé. Ça, c'est factuel. Les 125 députés se sont levés pour voter en faveur. Moi, ce que je constate, c'est que 80% des gens qui nous écrivent puis qui nous appellent sont contre ça.
Ben oui,
ces gens-là ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Il y a encore une fois un déficit démocratique.
Ouais, non,
je pense que c'est important
un peu normal que les gens qui vous...
C'est pour ça qu'on part une pétition aujourd'hui.
Ouais, mais c'est un peu normal que les gens qui vous écrivent soient contre. Je pense pas que les gens qui soient pour vont vous écrire.
Vous ferez une tribune téléphonique, vous mesurez, voir votre auditoire, combien il y en a qui sont d'accord avec ça.
Mais je pense pas qu'on mesure non plus en fonction de quelques appels. Puis pas plus que les pages Facebook.
On va faire
Facebook.
Un sondage. Moi, j'ai pas de problème. Mais moi, je pense que la majorité des parents du Québec n'est pas là, là.
OK, mais ça, vous avez le droit d'en faire un si vous voulez. Mais l'autre question, vous êtes d'accord, vous, qu'on parle de diversité dans une bibliothèque publique?
Je suis d'accord. Non, l'école, là, c'est un lieu d'apprentissage.
Non, je vous parle d'une bibliothèque publique. Êtes-vous d'accord qu'on parle... Ben, une bibliothèque, là...
La bibliothèque, moi, d'habitude, je vais là pour emprunter des livres, là, mais j'ai les...
Mais il y a des conférenciers dans toutes les bibliothèques du Québec.
Oui, ils peuvent faire des conférences sur ce qu'ils veulent. Ça, c'est tout à fait correct.
Non, mais ma question, c'est êtes-vous d'accord qu'on parle de diversité?
Ben, diversité, c'est aux parents, ultimement, à décider à quel âge on commence à parler de ça. Je vais vous donner un exemple très concret, là. J'ai un parent qui m'écrit, il me dit, je suis allé voir une game de basketball, là, de l'Alliance à Montréal, avec mon fils de 7 ans. C'était notre grosse sortie. Mon fils, il trippe sur le basket. C'était sa grosse sortie avec son père. On est arrivé là. À mi-temps, il y a eu un spectacle de drag queen. J'ai passé la deuxième moitié de la game à y expliquer quelque chose. Ça a détruit notre moment père-fils. Puis je savais pas quoi y répondre. C'était pas la place pour faire ça. J'étais mal à l'aise. Je veux dire,
sérieux.
Le parent, là, c'est à lui à décider. C'est pas à se le faire rentrer dans la gorge. Puis des politiciens qui nous disent qu'il faut exposer les drag queens là, aux enfants. Je m'excuse, mais c'est pas leur job de faire ça. Là. L'État doit être neutre face à ça.
Vous êtes sérieux quand vous me dites ça?
Je suis sérieux quand je vous dis quoi?
Que de voir à l'intermission d'un événement des drag queens, ça détruit les relations entre les parents et les enfants.
C'est que l'enfant de 7 ans, il comprend pas, il pose des questions à son père. Son
mais
père
savez-vous combien d'affaires les enfants de 7 ans comprennent pas puis que c'est le rôle des parents d'expliquer? Puis plus on explique, plus on permet à ces enfants-là d'être plus confortable avec la réalité que de les laisser dans l'ignorance, je pense.
OK, monsieur Arcan, si ça avait été un curé qui avait été faire une prière, vous seriez le premier à être scandalisé. Ben, vous pouvez rire, mais
ben, sérieusement, là, c'est une différence entre une prière et un curé, puis la laïcité, puis lâchez-moi ça, là, tu sais.
Non, mais c'est
là,
juste.
Là, vous avez l'air du gars vraiment, là, vous savez plus par quel bout pogner ça, puis vous dites, là, on voit la laïcité, puis après ça, le financement public. Mais moi, je respecte ça. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ça.
Merci.
Mais, ben non, mais ça, on reconnaît le droit. Mais moi, j'ai vu Larry Bouledingue à l'époque, Dame Plume, là, je peux-tu vous dire, qui était déguisé, puis on pouvait se poser des questions, puis il y en a qui voient des clowns, puis qui aiment pas les clowns, puis que ça stresse. Je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui peut être offensé par quelque chose.
Arcan, historiquement, là, les drag queens, là, moi, j'apprécie ça des shows de drag queens en passant, là, j'ai absolument rien contre les drag queens, là. Mais c'est un style burlesque qui est associé au bar en fin de soirée, puis que c'est très imagé, c'est très cru, puis c'est correct, là, puis ça peut être sexuel, puis c'est une caricature de la femme. Mais là, pourquoi on insiste pour que ces gens-là entrent dans des lieux avec des enfants? C'est ça que la question, que les citoyens ont le droit d'avoir un malaise, puis les parents ont le droit de refuser ça. C'est
mais
ça notre point. C'est pour ça qu'on dépose une pétition aujourd'hui.
Les parents se font pas imposer la présence de drag queen dans des bibliothèques. Les parents ont le choix d'y aller ou pas. C'est un événement qui est ouvert. Point.
C'est ça. Mais ça reste que faut
s'assurer
que les parents.
Pourquoi il y a des manifestants qui empêchent la tenue de ce type d'événement? Trouvez-vous ça correct? que
mais
c'est...
Non, non, justement, d'ailleurs, la pétition le dit, hein, si vous l'aviez bien lu, là, vous allez voir qu'on dit qu'ils n'ont pas à être discriminés, puis ils n'ont pas à être injuriés, que le débat doit se faire dans le respect de l'un et l'autre, sans insultes, sans propos haineux. Parfait. Je pense que c'est très important, puis c'est pour ça qu'on présente une pétition, c'est pour ça que j'aimerais ça qu'on soit représenté à l'Assemblée nationale, parce que dans une société démocratique, c'est comme ça qu'on débat de ces enjeux-là. Et là, on fait une pétition, justement, pour que les gens qui sont contre, plutôt que d'insulter et d'injurier, là, la façon démocratique de le faire dans une société comme la nôtre, c'est de signer des pétitions puis de faire des représentations auprès de nos élus.
Pensez-vous, en terminant, qu'une pétition va changer un vote unanime de l'Assemblée nationale?
Non, mais j'ai confiance que je vais aller rencontrer, je vais demander une rencontre avec Martine Biron, qui est la ministre responsable. Je vais lui présenter les milliers de signataires. Je sais pas si la CAQ s'est fait, a pas pris conscience de la portée de la motion de Québec solidaire, puis ont pris à la légère les mots « exposer les enfants aux drag queens » dans le libellé de la motion qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais je suis pas mal sûr d'une chose, par exemple, M. Arcand, c'est que ça va avoir plus d'impact, la pétition, plus il va y avoir de monde qui vont la signer, puis ça va avoir plus d'impact qu'une pétition que si on fait rien chez nous puis on dit qu'on peut rien faire.
Je vais vous dire, en plus, ça augmente votre banque de données, de coordonnées puis d'adresses de courriel. C'est un effet positif pour vous aussi.
Vous pouvez le voir comme ça.
Mais non, mais c'est un fait aussi quand même.
Éric Duhem.Québec. Il y en a qui veulent continuer à les signer. Merci de m'avoir
donné. Non, mais c'est ça. Puis vous allez recevoir la correspondance du parti. Merci, M. Duhem.
Ça m'a fait plaisir, M. Arcand. Au revoir.
Éric Duhem qui lance cette pétition officiellement aujourd'hui.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, il y a Gérard Depardieu qui est pointé du doigt par 13 femmes, des femmes qui accusent l'acteur français de violence sexuelle sur les plateaux de tournage de 11 films échelonnés sur 18 ans. Et c'est Marine Turki, qui est journaliste à Mediapart, qui a fait l'enquête et qui a recueilli ces témoignages. Elle est avec nous ce matin. Marine Turki, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
D'abord, parlez-nous de ces femmes, il y en a 13. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit et qu'est-ce qu'elles reprochent à Gérard Depardieu?
Oui, elles sont 13. Alors, on a aussi beaucoup d'autres témoignages de personnes qui sont présentes sur les tournages et qui nous racontent, donc des témoins. Mais ces femmes, au fil des récits, finalement, elles décrivent une scène qui semble se répéter. Elles sont comédiennes, elles sont maquilleuses ou techniciennes. Elles nous racontent qu'elles ont subi une main dans leur culotte ou à leurs jambes ou à leurs fesses ou sur leur poitrine de la part de Gérard Depardieu ou alors des propos sexuels obscènes répétés, parfois des grognements insistants et puis suivis à chaque fois de rires sur le plateau. Et cette même phrase, lorsque finalement, certaines se sont plaintes. Oh, ça va, c'est Gérard, c'est Depardieu. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et c'est pour ça que ces femmes, elles ont décidé aujourd'hui de parler parce qu'elles dénoncent aussi la complaisance dont bénéficierait Gérard Depardieu sur les plateaux de cinéma notamment et l'absence de réaction des équipes de production, des équipes de tournage. Elles disent qu'à chaque fois, la plupart, soit ont détourné le regard, soit ont choisi d'en rire et c'est pour ça qu'elles ont accepté de témoigner dans Mediapart. Hein. C'est une enquête qui est très fouillée, très longue et qui est agrémentée, je le disais, de témoignages de témoins qui étaient présents, hein, des techniciens, des costumières, etc. L'une d'elles a choisi de transmettre son témoignage à la justice au mois de mars, donc c'est tout récent, parce qu'il y a actuellement en France une enquête pour viol qui est ouverte à l'encontre de Gérard Depardieu. Il est mis en examen pour viol, lui conteste les faits, mais actuellement c'est quelque chose sur lequel la justice française se penche par ailleurs.
Il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. Les gestes, bien sûr, reprochés à Depardieu, mais aussi cette espèce de complaisance, et pour ne pas dire complicité, sur laquelle Depardieu a pu compter pendant toutes ces années en disant « C'est Gérard, écoutez, c'est pas si grave, qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça ».
Oui, c'est vrai que ça s'explique par plusieurs facteurs, je pense. Déjà par le fait que Gérard Depardieu est vu comme quelqu'un faisant des provocations, des frasques, et donc les accusations de violence sexuelle sont mises sur le même niveau que d'autres provocations, d'autres éléments. L'autre chose, c'est que c'est un immense acteur, très clairement, et donc je pense que le fait qu'il soit un peu un monument du cinéma français a expliqué aussi le fait que les alertes n'étaient pas entendues. Comme on l'explique dans l'un des articles qu'on a publié, beaucoup d'éléments sont publics depuis des années. Beaucoup d'accusations de mise en cause sont sous nos yeux. J'exhume une vidéo du tournage des Fugitifs, un film qui est sorti en 1986, où on voit que sur le tournage, entre deux prises, il embrasse par surprise une maquilleuse qui est en train de faire un raccord maquillage. Il y a énormément de choses comme ça qui sont dans les articles, dans les livres, dans les vidéos, et ce sont des éléments publics. Je crois que le monde du cinéma français, ou en tout cas une partie, a choisi de ne pas regarder ces éléments, ou a choisi d'en rire. J'ai interviewé une vingtaine de producteurs et de réalisateurs des films films concernés. Soit ils n'ont pas répondu, soit ils m'ont expliqué n'avoir rien vu, rien entendu, n'étaient alertés de rien, alors même que les faits qui sont dénoncés ont lieu sur le plateau, entre deux prises, au vu et au su de tous. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu interroger dans notre article. Ce silence, cette omerta et cette complaisance qui est très française, il me semble.
À votre connaissance, parmi ces 13 femmes, il y a déjà des cas là où il y a eu plainte aux autorités, donc enquête policière. Est-ce que d'autres ont l'intention de déposer officiellement des plaintes? Est-ce qu'elles peuvent le faire? Est-ce qu'il y a des délais de prescription?
Alors, il y a peut-être des faits qui sont prescrits, ça ce sera la justice de dire, mais moi, les femmes que j'ai interviewées, que j'ai rencontrées pendant ces deux années d'enquête, elles me disent qu'elles ont le sentiment qu'il est intouchable, ou qu'il l'a été en tout cas. C'est ce qui les a fait beaucoup hésiter à nous parler. L'une m'a dit, moi j'ai peur de ne pas être écoutée, de ne plus travailler, parce que moi, je suis personne face au monstre du cinéma français. Et une autre qui m'a dit, moi je suis une actrice qui travaille, mais en dents de scie, et le cinéma français c'est un petit milieu, parler, c'est se mettre en difficulté. C'est pour cette même raison qu'aujourd'hui, la plupart ne veulent pas se tourner vers la justice. Il faut savoir qu'en France, 73% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite par la justice. Elles aboutissent très peu et c'est ce qui aussi explique que beaucoup ne souhaitent pas donner leur témoignage à la justice. Alors parmi les 13 dont j'ai recueilli le témoignage, il y en a tout de même 3 qui ont transmis leur témoignage à la justice, non pas sous la forme d'une plainte, mais sous la forme d'un témoignage. Et comme je le disais, l'une d'elles vient de le faire au mois de mars. Donc la magistrate en charge du dossier se penchera sur ce témoignage, j'imagine, très prochainement.
Merci beaucoup, Marine Turki. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Marine Turki est journaliste à Mediapart. Précisons que Depardieu a refusé de répondre aux questions. Les avocats ont simplement mentionné que tout ça était tout à fait faux et Depardieu se défend d'être ce qu'on appelle un prédateur. Je veux revenir sur le dossier des résidences pour personnes âgées, parce que la question fondamentale, c'est comment se fait-il que des personnes vulnérables se sont retrouvées sans électricité pendant 3 jours. Ce matin, on parle de centres de soins de longue durée publics, mais beaucoup de résidences privées également se sont retrouvées dans la même situation. Marc Fortin est le président directeur général du regroupement des résidences pour aînés. Monsieur Fortin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arquin.
Je veux bien comprendre, là, puis vous allez m'expliquer la mécanique, là. Une résidence pour personnes aînées, est-ce qu'elle est enregistrée dans ce que j'appelle les fichiers de Hydro-Québec? Autrement dit, est-ce que Hydro sait exactement où se trouvent toutes les résidences pour personnes âgées au Québec?
Normalement, oui. C'est ce qu'on... Puis on est en train d'essayer d'éluder ça cette semaine avec Hydro-Québec, mais normalement, oui, parce qu'il y a un registre qui est mis à jour régulièrement par toutes les RPA auprès du ministère, puis Hydro-Québec a accès à ce registre-là, et le gouvernement peut lui envoyer une liste du registre des 1509 résidences du Québec en l'espace d'une sortie de données, là. Donc, de notre part, pour nous, oui, si on a besoin de faire quelque chose, c'est ce qu'on demande au président d'Hydro-Québec cette semaine. Une lettre est partie hier soir pour leur demander qu'est-ce qu'on fait pour changer les processus pour que la prochaine fois, on se retrouve pas dans des situations avec des RPA qui sont 4 jours sans électricité. Donc, il y a encore du travail à faire avec Hydro-Québec, je vous dirais, mais c'est pas clair, on n'a pas de réponse claire non plus au niveau d'Hydro-Québec.
OK, parce que là, Hydro-Québec me donne des exemples d'immeubles qui changent de vocation, où c'était, je sais pas moi, du locatif tout court, c'est devenu une RPA, puis d'autres endroits qui étaient des RPA qui ne le sont plus. Que c'est constamment en évolution, ce marché-là.
Oui, mais il y a quand même un 90% qui change pas ou 85% qui change pas. Puis le registre des résidences du ministère de la Santé est mis à jour à tous les mois. Donc, il y a un document, il y a un processus, il y a un système qui est là.
Maintenant, ça c'est du côté du gouvernement. Parlons du côté des résidences. Est-ce qu'il y a une obligation pour une résidence avec un certain nombre de locataires, là, d'avoir des équipements comme des génératrices en cas de panne d'électricité?
Tout à fait. Puis les grosses résidences, les moyennes résidences ont tous des gros systèmes de génératrices, là. D'ailleurs, tout le monde courait après des livraisons de fuel la semaine passée parce qu'évidemment, les génératrices étaient en fonction, puis l'essence partait et puis il fallait les faire remplacer. Puis on avait de la misère à trouver des gens pour nous remplir l'essence pour les génératrices, là.
OK, mais le manoir Outremont, là, qui a pas de... Ouais. Les ascenseurs marchent pas, il n'y a pas de lumière, puis ça dure pendant 3 jours. Comment on explique ça?
Mais ça, c'est faux. Les lumières fonctionnaient parce qu'il y a une grande génératrice là-bas, donc les lumières étaient fonctionnelles. Je sais qu'il y a un monsieur qui se plaignait parce qu'il voulait que tout fonctionne, mais il n'y a pas, même pas un hôpital qui peut fonctionner qu'une génératrice où tout va fonctionner.
Allez, monsieur Fortin, là, une minute. Moi, j'habite un immeuble à condo, l'eau chaude fonctionnait, l'ascenseur fonctionnait, tout l'éclairage de corridor fonctionnait. Puis c'est du monde fonctionnel. Fait que dites-moi pas qu'une RPE est pas capable de s'équiper correctement pour que les ascenseurs marchent, qu'il y ait l'électricité dans les aires communes.
Ben, normalement, oui. Fait que ce cas-là...
J'ai de la misère avec vous.
L'ascenseur devait fonctionner, là.
Ben, c'est parce que, oui, une personne âgée qui part du sixième, peut-être ça serait pas pire qu'elle soit pas obligée de prendre l'escalier.
Non, ça c'est clair.
Puis peut-être ça, aussi, mais vous donner un autre cas de quelqu'un qui a besoin d'avoir un équipement pour se déplacer dans son lit parce que l'électricité fonctionne pas, est obligé de rester dans son lit. Fait que je pense pas que ça aussi c'est respectueux de la clientèle.
Non, ben une RPA a pas d'équipement pour les lits, mais vous avez raison pour un CHSLD, entre autres, ben il fallait de l'électricité partout. Je veux dire, mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait pas vraiment de liste de priorités. Parce que tous les hôpitaux, les CHSLD, les RPA et BRI, dans certains cas, auraient dû être priorisés sur une liste d'Hydro-Québec pour pouvoir être fonctionnels.
OK, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Hydro-Québec a sans doute échappé certains endroits puis aurait dû vous rebrancher plus vite. Moi, j'ai de la misère, puis là, vous aimerez pas ce que je vais vous dire, là.
Allez-y.
Moi, je trouve des fois là que des résidences, là, vous prenez les scènes des vieux jusqu'au dernier 25 cents, puis on donne le service qu'on peut. Moi, je m'excuse, une résidence où il n'y a pas, en ces périodes de changement climatique, des plans puis des génératrices pour soutenir les bénéficiaires pendant les 3 ou 4 jours où on manque d'électricité, parce que malheureusement, ça va arriver encore. J'aime pas ça. Je trouve que jusqu'à un certain point, c'est de la négligence.
Ben, je suis d'accord avec vous du sens que, mais il faut bien comprendre, on parle de la résidence d'Outremont.
Mais je parle de plusieurs autres, moi. Je parle pas juste d'une.
Plusieurs autres, mais entre autres d'elles. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une autre résidence qui a fait à manger pour eux tous les jours. La nourriture était transportée à la résidence d'Outremont pour pouvoir nourrir les aînés. Mais il y a une des choses, par contre, que je leur donne à Outremont, c'est que moi, ils m'ont appelé vendredi matin. Ils m'ont dit, Marc, on a besoin de prévisibilité. C'est quoi qui se passe avec Hydro? Tout le monde à Outremont a l'électricité à part nous autres.
Hey, c'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. Peux-tu vous dire que c'est pas vrai?
Comment c'est pas vrai?
Ben, j'habite dans ce coin-là, puis je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui avait l'électricité parce que jusqu'à lundi, il y avait encore du branchement. Fait qu'il y a quelqu'un qui vous raconte des histoires.
Ben, une grande partie des gens. Moi, je
non, je peux vous dire.
De l'autre côté de la rue de celle-ci avait l'électricité, le samedi
matin. OK, mais Monsieur Fortin, le point le plus important pour les gens qui écoutent, ça serait le fun que les RPA s'engagent à s'équiper pour éviter des situations qui sont désagréables, pour ne pas dire autre chose, pour les bénéficiaires. Sinon, vous avez l'air des soqueurs de portefeuille en hébergeant du monde pour finalement, avec une limite dans les services.
Mais puis c'est pour ça que je vous dis, ça a coûté déjà à la résidence de faire ça, puis de transporter la nourriture. Il n'y a personne qui le faisait puis qui a chargé quoi que ce soit pour ça. Même les gens qui n'avaient pas de repas ont reçu dans leur programme avaient reçu des repas. Je pense qu'il n'y a personne qui fait de l'argent à travers ça, c'est ce que j'essaie
mais
de
là,
dire.
Mais la
majorité sont équipés parce qu'on est géré par les CIS, on a des listes à respecter en cas de panne aussi. Donc tout le monde est équipé à la mesure. C'est sûr qu'une résidence de 12 unités n'aura pas une génératrice à tout faire fonctionner, mais une grosse résidence normalement devrait avoir une génératrice qui va faire fonctionner.
À partir de combien de résidents on devrait avoir une génératrice, selon vous?
Ben, toutes les résidences devraient avoir des génératrices. C'est sûr qu'une petite résidence de 12 unités va en avoir une petite, là, mais les autres, quand on parle de 50 unités, 100 unités, 200 unités, c'est des grosses génératrices. Les grosses résidences, là, c'est des gros mastodontes là qui prennent l'équivalent de 2 pièces là dans le garage pour faire fonctionner la majorité des équipements là. Mais je suis d'accord avec vous, il faut que tout le monde soit mis à jour, puis il faut que tout le monde soit prêt à répondre à cette situation là parce qu'on va en avoir d'autres dans le futur.
Mais moi là, je me promène entre vous puis Hydro-Québec là, puis sérieusement là, je me dis OK, je vous écoute de part et d'autre, puis je reste dans le noir comme les bénéficiaires.
Ben, je vous dirais que nous, on n'est pas dans le noir parce que 95% des résidences, ça a comme très bien été, ça a été extrêmement bien géré. Il y en a certains que ça a été plus compliqué, mais on les compte sur les doigts de deux mains.
Parfait. Merci, M. Fortin.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci,
Marc Fortin est président-directeur général du regroupement québécois des résidences pour aînés. Bon, on va finir dans C'est un moment avec... Ben, on fait ça tout de suite avec Fred. Moment ésotérique, bizarre, étrange.
De joie et l'allégresse.
Attention, cotez-vous dans vos fauteuils. Dossier des furries dans les écoles. C'est vraiment une des thématiques ce matin. La directrice d'un centre de service scolaire de l'Outaouais réagit. D'abord, explique-nous ce que sont les furries.
C'est ça. Si vous n'étiez pas là tantôt, je racontais que certains ados dans certaines écoles secondaires de l'Outaouais se définiraient par des identités animales. Exemple, une jeune femme dit que ben moi, je suis un chat, puis là, il y a des loups, puis des poppies, puis elle, c'est un chat qu'on appelle les furries. Et au point où il y a certains profs qui seraient intervenus pour des problèmes de miaulement, notamment dans les cours. Et là, la directrice du centre de service scolaire des Draveurs a réagi publiquement en confirmant des cas. Donc, Mme Manon Dufour indique qu'il y a effectivement eu des jeunes furies à l'école polyvalente Nicolas Gatineau. Donc, l'élève arrive en classe, porte des oreilles de chat, une queue de chat, un collier, parfois même une laisse.
Là, c'est une journée régulière, là. C'est pas une fête,
c'est pas l'Halloween. Pas l'Halloween, c'est okay. Pas Noël, c'est pas... Non, c'est vraiment une journée régulière. Elle a démenti, par contre, les rumeurs de demande d'accommodement pour des litières à l'école. S'il y a eu des litières, c'est pas l'initiative de l'école. Ça relève d'une légende urbaine. Elle insiste sur le fait que si ça arrive, là, des cas de furry, les élèves sont rencontrés. On leur rappelle le code vestimentaire de l'école. On dit qu'à l'école, on doit s'habiller en écolier. On investigue aussi à savoir quel est l'objectif du jeune. Est-ce que c'est pour provoquer? Est-ce que c'est pour avoir des j'aime, des likes sur les réseaux sociaux? Ou il se définit réellement comme un animal? Et là, si c'est le cas, ben, y a des équipes de soutien qui peuvent accompagner les élèves et les familles dans la circonstance. Et je le disais tantôt, le phénomène des furies dans le monde adulte, c'est plus populaire qu'on pense. C'est basé sur l'anthropomorphisme, qui est l'attribution de caractéristiques de comportement ou de morphologie humaine à des animaux. Et il y a différents degrés là, de la communauté furry. T'as ceux qui aiment se déguiser tout simplement au même titre que ceux qui vont dans des Comic-Con là, de super-héros qui se déguisent en Superman, Batman. T'as ceux qui intègrent le mode de vie furry à leur vie intime comme une espèce de fétiche. Et ceux qui s'identifient réellement comme des non-humains qu'on appelle les otherkin. Mais ça reste quand même une situation plus rare. Faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, non. Faut pas stigmatiser non plus. J'ai parlé à plusieurs furries dans mes recherches et c'est un monde. Il y a des accessoires, il y a des costumes. Et si ça vous tente de vous ouvrir et d'en connaître davantage sur le phénomène, il y a même des rassemblements qu'on appelle des Fur Meet. C'est organisé partout au Québec selon un adepte.
Des rassemblements de furries dans toutes les régions, c'est quand même assez impressionnant en fait. Ça va être surtout centralisé autour des costumes. C'est quand même les grosses pièces de la communauté. Veux pas, c'est des pièces qui se coûte plusieurs milliers de dollars, des fois même par occasion. Fait que c'est comme un peu le gros centre de tension.
Il y en avait un, justement, dans les derniers jours à Québec, sur la terrasse Dufresne, tout près du Château Frontenac. C'était très bon enfant, là. Ça avait l'air des mascottes, là. Il n'y avait pas de connotation quelconque, mais quand même, ça a attiré les regards. Il y en aura un à Montréal en mai, à Chambly en septembre. Il y en a comme ça un peu partout à travers le Québec.
OK. Mais moi, c'est Alain et moi. Qui sont sans doute très vieux jeux, là.
Hier, quand je préparais la chronique, j'avais juste l'image de moi entre Alain et toi expliquer ça.
Non, mais c'est parce que là, les miaulements, là, c'est vrai, là, dans les cours. Mais ça va de bon sens. Je veux dire que le monde se déguise. T'sais, à la limite, là, ça les regarde dans leur vie privée, là. S'ils veulent se déguiser en chat ou en chien. Mais je sais pas, moi, je suis prof dans au secondaire, un cours de géo. Puis ça se met à miauler dans la classe, là. Ben non.
Ça arrive avec une laisse en quatre pattes.
Ben non.
Dans ces cas-ci, c'était beaucoup plus pour provoquer, mais quand même, c'est...
OK. Veux-tu te dire quelque chose?
Je trouve que c'est épouvantable. Je suis désolé. Je suis probablement vieux jeu, moi aussi.
Un petit côté
Lyon,
par exemple.
Ouais. Juste vous dire, avant de passer à Catherine, là, je reçois plein de courriels de gens là, concernant des résidences. Là. Quand on me dit que ce sont les exceptions, je pourrais vous en nommer juste là. Pas d'électricité pendant 3 jours, RPA, dans un CHSLD pendant 4 jours. Puis là, ça appartient au gouvernement, ça. Le gouvernement ne sait pas qu'il y a un centre de soins de longue durée là ou n'a pas eu le temps de le prioriser. Ça a duré 4 jours, pas de bouffe, ou en fait de la bouffe froide. C'est pas chaud à l'intérieur, puis un ascenseur au bout du corridor qui marchait. Sa mère a 94 ans. Fait que on pensait que ça avait évolué depuis la crise de la COVID. Faut croire que non.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.